RFI 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et tout de suite, le journal. Bonjour Arthur Poncelet.
Ce matin, délégués rwandais et congolais assis autour d'une même table. C'est une première depuis le début de la médiation américaine dans la guerre en RDC. Les négociations de paix se poursuivent. Washington espère un accord d'ici la fin du mois de juillet. Des pluies aussi soudaines que violentes qui entraînent des torrents de boue. Kinshasa et Brazzaville frappés par des inondations ce week-end. Elles ont fait au moins 19 morts. Dans ce journal aussi, l'opposant camerounais Maurice Kamto, visé par une plainte d'une ONG, une organisation téléguidée par le pouvoir, dit le MRC. L'avocat des journalistes de Sahara FM inculpé au Niger dénonce les conditions de détention de ses clients. Et puis les sports, juste après ce journal, on revient sur le match d'ouverture de la Coupe du Monde des clubs cette nuit à Miami, 0-0 entre l'Al Ahly du Caire et l'Inter Miami. Les États-Unis espéraient un accord ces jours-ci. Ils s'attendent désormais à une signature à la fin du mois de juillet. Les négociations de paix se poursuivent à Washington entre la RDC et le Rwanda, avec une première, Esdras Dikumana, puisque les Américains ont réuni autour d'une même table les délégués congolais et rwandais.
Plus de discussions par facilitateur américain interposé ou par échange de messages WhatsApp. Depuis 2-3 jours, les experts congolais et rwandais sont face à face et discutent directement entre eux à Washington. Sur la table de négociation, un projet d'accord dont on vous a parlé en début de semaine, il s'agit d'un second draft proposé par les facilitateurs américains qui se sont basés sur les premières remontées en provenance des deux parties. Dans un premier temps, les États-Unis pensaient arriver à un accord vers la mi-juin, mais je cite, c'était l'objectif initial, il a fallu l'adapter à la réalité des négociations, a réagi hier sur X, le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe. Les experts des deux côtés sont désormais entrés dans le vif du sujet avec pour objectif, je cite encore le MAE rwandais, de négocier un accord de paix global réaliste et mutuellement bénéfique, dit-il sans plus de précision. Les chefs de la diplomatie congolaise et rwandaise devraient se retrouver toujours à Washington une fois un préaccord trouvé entre les experts avant un sommet qui réunira les présidents congolais et rwandais autour de Donald Trump. Pas de calendrier rigoureux à suivre pour le moment donc, mais les Américains veulent aller vite, très vite. Ils espèrent y arriver au cours du mois de juillet, explique une source à Washington.
Esdras Dikumana, bilan revu à la hausse dans le naufrage de pirogue sur le lac Tumba dans le nord-ouest de la RDC. 26 nouveaux corps ont été retrouvés hier, portant à plus de 60 le nombre de morts. Trois grandes pirogues ont chaviré. Le convoi a transporté plus de 200 personnes qui se rendaient à des funérailles. L'actualité en RDC, ce sont aussi ces violentes inondations dans la nuit de vendredi à samedi. Toute une partie de Kinshasa s'est réveillée les pieds dans l'eau. Résultat de pluies torrentielles qui ont fait au moins 19 morts, dont la plupart dans la commune de Ngaliema. Ces inondations n'ont pas épargné Brazzaville. Il faut dire qu'elles étaient inattendues en pleine saison sèche. Dans la capitale congolaise, les dégâts sont impressionnants. Reportage Loïcia Martial.
Nous sommes à Masengo, quartier nord de Brazzaville. L'avenue Nambitchoumé est sans dessus-dessous. Sur une partie, les conduites d'eau sont à ciel ouvert. Les torrents d'eau tombés sur la ville ont emporté la terre qui les recouvrait. Plus loin, un ruisseau est sorti de son allumé. Des jeunes transportent des piétons sur leur dos, potentiellement 150 francs. D'autres utilisent une pirogue.
On est surpris, il y avait la pluie. Subitement ce matin-là, vraiment ici-là, c'est l'embuscade. Parce qu'avec l'eau, quand ça revient comme ça, avec le goudron, ça marche pas.
Quitter sa maison pour gagner un autre coin de la ville n'a pas été chose facile.
On s'est égaré à Mikalu, là, la voie telle que vous voyez ici. Là. Il y a inondation, on ne peut pas se déplacer et tout.
Le sable, drainé par les eaux, a envahi une bonne partie du terminus de Mikalu, toujours au nord. Les habitations n'ont pas été épargnées.
Comme chez moi, là-bas, la nuit, c'était vraiment le calvaire. Les voisins sont venus là, oh non, sors. Je suis resté dans la maison. Parce qu'avec les tonnerres, là, je ne pouvais pas sortir. Parce que j'avais peur.
La pluie, en pleine saison sèche, une surprise pour plus d'un Brazzavillois. Beaucoup y voient la manifestation de changement climatique. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Et le bilan encore provisoire fait état d'au moins 3 morts à Brazzaville un peu plus tôt dans la semaine. C'est l'Afrique du Sud qui était frappée par un épisode climatique extrême. Là, la pluie s'est mêlée au vent et à la neige dans le sud du pays. Il y a eu au moins 86 morts et selon le président Cyril Ramaphosa qui s'est rendu sur place vendredi, c'est la conséquence du réchauffement climatique. Un mois jour pour jour après l'arrestation tentation de succès Masra au Tchad. Les soutiens de l'opposant et ancien Premier ministre se sont réunis hier. Tous appellent à la libération du patron des transformateurs. L'affaire est purement politique et il faut qu'elle s'arrête là, dit ce matin sur notre antenne le porte-parole du parti. Lui aussi dénonce une manœuvre politique. Le MRC, le parti de l'opposant camerounais Maurice Kamto, s'inquiète d'une plainte déposée contre le candidat déclaré à la présidentielle d'octobre. Il y a 10 jours, l'ONG Observatoire du Développement Sociétal déposait plainte après les propos tenus par Maurice Kamto lors de son meeting à Paris il y a 2 semaines. Il appelait à la révolution. Cette ONG se présente comme une organisation de la société civile légalement constituée. Elle est aussi à l'origine de la plainte contre Maître Alice Nkom, la défenseuse des droits humains. Et chez les proches de Maurice Kamto, on dénonce une ONG factice. Écoutez Joseph-Emmanuel Ateba, il est le secrétaire national à la communication du MRC.
Comme toujours, ça fait partie des manœuvres du système. C'est quelque chose d'organisé, de fabriqué, de monté de toutes pièces. Si Maurice Kamto avait dit quelque chose de répréhensible, la justice est là pour s'en charger. Quand on passe par une ONG pour le faire, vous comprenez combien le montage est grossier. C'est une ONG fabriquée, c'est une ONG qui n'a aucune existence, dont on ne connaît pas les faits d'armes dans notre pays. On l'a jamais vue en action quelque part. On l'a découverte à travers la plainte contre Maître Alice Nkom. Et la deuxième fois qu'elle agit, c'est contre Maurice Kamto. Donc, c'est les instruments du système, pour dire vrai. Pour donner l'impression qu'il y a des organisations autres que l'État qui sont contre Maurice Kamto. Donc, l'État ne veut pas se mettre devant. Donc, elle passe donc par ces organisations écrans pour entamer une procédure. On sait que ce n'est qu'un instrument, c'est un paravent qui a été utilisé.
Propos recueillis par Amélie Tullet et sollicités par RFI. L'ONG à l'origine de la plainte n'a pas donné suite. J'aurais besoin de tous et même des perdants. La main tendue du président burundais à l'opposition, Evariste Ndayishimiye, a pris la parole hier. Une première depuis la publication des résultats provisoires des législatives. Élections qui ont vu son parti, le CNDD-FDD, remporter 96% des voix et tous les sièges en jeu. Face aux contestations de l'opposition quant au déroulement du scrutin qu'elle juge truqué, le président invite ses détracteurs à utiliser les voies légales et à se rapprocher de lui. Il est 5h37 en temps universel. C'est un minutieux travail d'enquête à la recherche d'archives, de témoins et d'informations. L'Afrique du Sud poursuit sa recherche des dépouilles des militants anti-apartheid exilés à l'étranger. Que sont-ils devenus? Face à la répression dans les années 60, des milliers d'entre eux avaient quitté le pays pour ne jamais y revenir. Certains sont morts dans leur pays d'accueil et y sont enterrés, parfois anonymement. Pretoria poursuit donc ses opérations pour tenter de les retrouver. En septembre dernier, 42 dépouilles avaient ainsi été rapatriées. Et Valentin Hugues, le ministère des Arts et de la Culture, lance une deuxième phase de ses recherches.
Angola, Lesotho, Zimbabwe et Zambie, voici la liste des pays où les recherches auront lieu. L'objectif, cartographier les cimetières, rencontrer des témoins, se plonger dans les archives pour retrouver la trace de ces militants qui ont lutté contre le régime d'apartheid depuis l'extérieur et qui ont été enterrés dans leur pays d'accueil. Ces hommes et femmes engagés avaient fui l'Afrique du Sud pour éviter la prison ou encore la mort. Beaucoup traversent alors les frontières terrestres pour se réfugier dans les pays voisins, un exil pour se protéger, mais aussi pour continuer la lutte alors que les principales formations anti-apartheid sont déclarées illégales en Afrique du Sud dans les années 60. Un exil aussi pour faire pression sur la scène internationale et parfois pour organiser la résistance. La branche armée de l'ANC, le MK, avait par exemple ses bases en Angola, en Tanzanie et au Zimbabwe. Le ministre des Arts et de la Culture, Gayton McKenzie, appelle les familles à se manifester et à donner n'importe quel détail, même minime, sur un proche mort en exil. Une opération de rapatriement chère à l'Afrique du Sud pour la justice et la dignité. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Arrêté une première fois, libéré puis à nouveau placé en garde à vue, 2 journalistes de Sahara FM ont été incarcérés vendredi au Niger début mai. Ils avaient été arrêtés avant d'être relâchés par un juge, puis la police les avait arrêtés une seconde fois. 40 jours après, ils sont inculpés pour atteinte à la défense nationale et complot contre l'autorité de l'État. Ils sont emprisonnés dans la prison de Kolo, c'est à 50 km au sud de Niamey. Une situation que déplore leur avocat, Maître Ahmed Maman.
Déjà, le fait que des journalistes soient en prison, c'est particulièrement grave dans notre pays, qui reconnaît une certaine protection des journalistes pour leur permettre de faire leur travail. L'éloignement aussi peut s'analyser en une aggravation de leur situation, parce que même pour leur avocat, pour les visiter, c'est un peu compliqué. Et en plus de ça aussi, s'agissant de la famille, il va falloir faire un long trajet pour les visiter. Je précise qu'ils sont sereins, en tout cas ils croient à la justice. Ils espèrent que leur situation soit réglée et qu'ils recouvrent leur liberté pour ceux qui ont été déposés à la prison. Ils sont de bonne foi, ils l'ont toujours clamé. Il n'a jamais été question pour eux de poser des actes dans le sens de nuire à leur pays. Mais notre, en tout cas, conviction est que, à l'issue de cette instruction, de cette information, c'est que le juge d'instruction se rendra compte que c'est un dossier vide et qu'il n'y a pas lieu à poursuivre davantage et qu'il sera amené à les libérer après avoir investigué.
Et dans cette affaire, une troisième journaliste a été remise en liberté provisoire avec interdiction de quitter Niamey. En bref, le FMI achève une mission de consultation au Mali. Le Fonds monétaire international observe une certaine résilience de l'économie malgré les crises climatiques et sécuritaires et prédit même une croissance de 5% cette année. Il y a un secteur qui se porte particulièrement bien. Là, ce n'est pas au Mali, mais à Dakar, au Sénégal, que ça se passe. Des centaines de jeunes en cosplay déguisés en personnages d'animés japonais se réunissent tout le week-end. Les fans sont de plus en plus nombreux à baigner dans la culture japonaise. Reportage à Dakar, Juliette Dubois.
Awa et Mathilde sont devenues amies grâce à leur passion du Japon.
On était dans la même classe, mais genre on ne se parlait pas. Un jour, j'ai su qu'elle regardait les animés comme moi. Depuis
voilà,
ça,
on s'est liés d'amitié. Voilà.
C'est ensemble que ces deux étudiantes en histoire sont venues au festival Matsuri. Elles ont dévalisé le stand de nourriture japonaise.
On a acheté des mochi, des nouilles, des baguettes aussi. Bon, c'est l'événement de l'année. Hein.
Au festival, chacun s'habille comme il le souhaite. Obi est venu en tenue de boxeur. Ce membre du club japonais de Dakar interprète Hajime no Hippo, un personnage de dessin animé. Obi se réjouit que la culture pop asiatique se démocratise au Sénégal.
Avant, c'était un peu minimisé, parce que comme on dit au Sénégal, Yefou Mickey en Wolof, c'est genre pour dire les affaires des Mickey, de Disney, là, c'est pas sérieux, c'est des enfants. Les parents, les adultes disaient que tu perds ta vie, tu vas jamais rien faire avec. Mais aujourd'hui, je suis content que nous avons pu prouver le contraire, parce que cette passion m'a donné le talent d'apprendre le japonais, m'a donné la chance de rencontrer de merveilleuses personnes à l'ambassade du Japon.
Aujourd'hui, Obi donne même des cours de japonais. Un peu plus loin, Ami Diak crée des mangas sénégalais avec les Diata Twins. Les codes de dessin et des histoires romantiques sont là, mais adaptés à un public local.
J'essaie d'intégrer notre quotidien, notre vie quotidien ici au Sénégal. Par exemple, il y a des histoires sur la Tabaski, Tamkharit, les Nawetan, etc. Et donc, au moins, les Sénégalais auront leur propre histoire à eux-mêmes.
Chaque année, les festivals de pop culture japonaise comme Matsuri attirent des centaines de Sénégalais venus de tout le pays. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Et si le cœur vous en dit, Julien Coquel-Rohem, le festival Matsuri, ça se poursuit toute la journée au monument de la Renaissance africaine à Dakar.
Eh ben, c'est bien noté. Merci Arthur Ponchelet, à tout à l'heure. RFI Matin, la suite, c'était...